Mes chers amis, d'après la loi juive, on devait offrir tout enfant premier-né à Dieu 40 jours après la naissance et racheter ensuite par un présent. La mère devait être en même temps purifiée de la souillure légale. Ni l'enfant Jésus ni la Vierge Marie n'étaient assujettis à cette loi, mais ils voulurent néanmoins s'y soumettre afin de nous donner un exemple d'humilité et d'obéissance. La loi nouvelle ne rend pas caduque cet exemple, mais nous enseigne au contraire à suivre les préceptes que nous donne la Sainte Église pour le bien de notre vie spirituelle et surnaturelle. Marie, au fond de son cœur, sait que cette présentation, loin de soustraire son fils au sacrifice, est comme l'offertoire du sacrifice qu'il consommera sur le calvaire pour notre rédemption. Les paroles du vieillard Siméon qui annonce Jésus comme la lumière qui éclaire les nations sont pour l'Église l'occasion de célébrer une véritable fête de la lumière. Elle est d'ailleurs souvent appelée chandeleur, non en raison des crêpes, mais en raison de sa signification étymologique, chandeleur venant du mot latin candela, cierge. Néanmoins, je tiens à remercier les mamans qui m'ont apporté des crêpes. D'abord célébrée à Jérusalem, dès le IVe siècle, cette fête passa à Constantinople, puis à Rome au VIe siècle. Au siècle suivant, le pape Serge Ier prescrivit de le faire précéder d'une procession que nous avons pu faire ce matin, malgré le temps. Je tiens d'ailleurs à remercier le service d'ordre envoyé par la préfecture et la mairie. Cet offertoire du sacrifice du Christ est bien décrite dans ces paroles du bienheureux Guéric d'Igny. « Je vous félicite et je vous bénis, ô pleine de grâce. C'est vous qui avez préparé ce cierge que je reçois aujourd'hui dans les mains. C'est vous qui avez fourni la cire à cette flamme. » Ce cierge doit aussi nous rappeler celui que le prêtre nous a remis le jour de notre baptême. Recevez ce cierge allumé, afin que lorsque le Seigneur viendra vous convier aux noces éternelles, vous puissiez aller à sa rencontre avec tous les saints. Cette chandeleur montre l'importance du rôle de Marie comme co-rédemptrice qui, en nous donnant ce petit joyau, nous demande de le porter allumé sous son égide maternelle afin de le remettre dans les mains de notre Créateur au dernier soupir de notre vie. Avec Marie, nous pouvons mieux apprécier le trésor de notre propre existence, don de Dieu pour le ciel. Elle qui, en ce jour, écouta du vieillard Siméon qu'elle serait transpercée d'un glaive de douleur. Oui, Marie est notre co-rédemptrice. Oui, comme le dit si bien le père Réginald Garrigou-Lagrange, moine dominicain, Marie a offert pour nous une satisfaction de convenance de la plus grande valeur après celle de son Fils. Le mérite, dit-il, devient le fondement de la satisfaction lorsque l'œuvre méritoire prend un caractère afflictif. En sa qualité de Mère de Dieu rédempteur, elle lui a été, en effet, unie par une parfaite conformité de volonté, par l'humilité, la pauvreté, les souffrances, les larmes, au calvaire surtout. En ce sens, elle a satisfait avec lui. À cette satisfaction de convenance, tire sa grande valeur de son éminente dignité de Mère de Dieu, de la perfection de la charité, du fait qu'elle n'avait rien à espier pour elle-même et de l'intensité de ses souffrances. C'est ce qu'exposent les pères de l'Église lorsqu'ils parlent de Marie debout au pied de la croix, comme l'affirme saint Jean. Ils rappellent les paroles du vieillard Siméon, « Un glaive transpercera votre âme ». Et il nous montre que Marie a souffert dans la mesure de son amour pour son Fils crucifié à cause de nos péchés, à proportion aussi de la cruauté des bourreaux et de l'atrocité du supplice infligé à celui qui était l'innocence même. La liturgie, depuis fort longtemps, dit aussi que Marie, par le martyr du cœur le plus douloureux, a mérité le titre de reine des martyrs. C'est ce que rappellent les fêtes de la Compassion de la Sainte Vierge Marie, de Notre-Dame des Sept Douleurs et le Stabat Mater. Léon XIII résume cette doctrine en disant qu'elle a été associée au Christ dans l'œuvre douloureuse de la rédemption du genre humain. Et le pape Saint Pie X l'appelle la réparatrice du monde déchu et montre comment elle a été unie au sacerdoce de son divin Fils. Non seulement parce qu'elle a consenti à devenir la mère du Fils unique de Dieu pour rendre possible un sacrifice destiné au salut des hommes, mais la gloire de Marie consiste aussi en ce qu'elle a accepté la mission de protéger, de nourrir l'agneau du sacrifice, et quand le moment fut venu de le conduire à l'autel de l'immolation. De la sorte, la communauté de vie et de souffrance de Marie et de son Fils ne fut jamais ininterrompue. À elle, comme à lui, s'appliquèrent pareillement les paroles du prophète « Ma vie s'est passée en douleur et mes jours se sont écoulés en gémissement. » Voilà qui nous permet de relativiser face à nos petits problèmes et parfois des liturgies que nous trouvons un peu longues. Mais revenons à la liturgie. La liturgie nous aide à prendre conscience que nous sommes comme baptisés, faits pour le ciel. La lumière nous guide, nous montre le chemin. Elle nous fait tendre à la sainteté. Mais qu'est-ce qu'être saint ? Nous vous y encourageons, nous vous en parlons, mais qu'est-ce qu'être saint ? Écoutons Saint Jean Bosco, que nous avons fêté jeudi dernier avec grande joie, parler à Saint Dominique Savio. Je vais te donner le secret de la sainteté. Premièrement, la joie. Ce qui te trouble et t'enlève la paix ne vient pas du Seigneur. Deuxièmement, le travail et la prière. Fais ton devoir d'État et prie souvent. Mais ne le fais pas par ambition ou pour avoir des compliments. Fais-le par amour du bon Dieu. Fais du bien aux autres. La sainteté, c'est tout cela. L'attitude de Marie, l'humilité et l'obéissance pour se conformer à la loi, bien que non assujettie, nous montre l'attitude que doit avoir le chrétien. L'humilité nous aide à être des pèlerins sur cette terre qui représente notre chemin de croix. Le paradis n'est pas sur la terre, mes amis. On le remarque que trop souvent. Mais la terre est notre route pour le ciel. Si nous voulons, comme le bon larron, être ce soir au ciel, c'est une image, il nous faut accepter ce chemin de croix. L'humilité nous aide à nous dépouiller comme le Christ le fut sur la croix. Remarquez bien, il n'avait pas d'habit somptueux. Il était nu, lui, le Fils de Dieu. Il nous faut donc, tout au long du chemin, nous dépouiller du vieil homme, de notre péché, de nos péchés personnels, orgueil, égoïsme, luxure, paresse, critique, médisance, calomnie, et la liste pourrait être longue. Mais le but, c'est que vous reveniez à l'Église, pas que vous y restiez jusqu'à demain matin. Alors j'avance. Ce dépouillement, non pour être regardé par l'autre, mais par amour de Dieu, comme le demande Don Bosco à Dominique Savio, pour Dieu, alors c'est lui en nous qui regardera l'autre, notre prochain. L'obéissance est comme une boussole. Par l'enseignement de l'Église, cette vertu nous donne la traçabilité de la route. La lumière du cierge nous guide sur le chemin et sa chaleur est comme une source d'espérance. Pourquoi ? Parce que le cierge allumé symbolise le Christ dont la flamme allumée au feu visible chasse l'obscurité. Nous sommes faits pour le ciel et Jésus, par le truchement de son Église, nous donne les moyens d'y arriver. Le Fils nous conduit au Père. Nous pourrions donner un thème à cette liturgie avec l'Église d'Orient, l'appeler l'hypapante, la rencontre. La rencontre entre Jésus et Siméon, la rencontre entre toi, chrétien de l'Église, chrétien de Saint-Jean-Baptiste, la rencontre entre toi et Dieu, la rencontre entre toi et Dieu par le Christ qui, lumière, te permet de le voir, de le rencontrer, de passer ton éternité avec lui. Le veux-tu ? Le veux-tu ? Que fais-tu dans ta vie pour y arriver ? Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.